OK, on va parler de ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient. Il y a Israël qui a recommencé à frapper sur Gaza et sur le Hamas. Pourquoi? Ben parce que le Hamas a lancé des roquettes sur l'État hébreu. Fabrice de Pierrebourg, notre ami journaliste d'enquête et collaborateur un peu partout sur nos ondes, est allé à Gaza il y a 2 ans et demi. Salut Fabrice.
Salut Patrick.
OK, là, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres cette fois-ci?
Bon, ben, c'est toujours cyclique. Cette fois-ci, c'est une affaire qui est partie de Jérusalem-Est. C'est une partie de la ville de Jérusalem qui est considérée comme la communauté internationale et les Nations Unies comme un territoire palestinien occupé. Et les Israéliens veulent expulser des familles palestiniennes pour les remplacer par des colons juifs. C'est actuellement devant les tribunaux. En parallèle de ça, il y avait le Ramadan. Il y a eu des affrontements entre ultras de droite, israéliens et palestiniens. Il y a eu des affrontements sur l'esplanade des mosquées, qui est considérée comme le troisième lieu saint de l'islam, entre des fidèles palestiniens, enfin arabes, et la police israélienne. Donc ça, ça a duré pendant plusieurs jours, hein, à partir du début du mois de mai. Et à un moment donné, le Hamas, qui est le mouvement islamiste palestinien, qui est au pouvoir à Gaza depuis 2007, donc c'est sûr qu'il est étiqueté terroriste dans beaucoup de pays, mais c'est à la base un mouvement qui administre le territoire de Gaza, le territoire palestinien de Gaza, a dit, écoutez, si vous arrêtez pas ce genre de manifestation, si vous arrêtez pas de taper sur les Palestiniens, ben nous allons répliquer. Et effectivement, ils ont répliqué, ils ont envoyé des roquettes sur le territoire israélien. Un autre groupe qui est palestinien aussi, qui s'appelle le djihad islamique palestinien, a envoyé des roquettes aussi. Et à partir de là, ben, c'est toujours la même chose depuis des décennies. Ça a enclenché un cycle roquettes contre bombes lancées par l'armée israélienne, avec le résultat qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même le dire, il y a un déséquilibre flagrant des forces, c'est une guerre asymétrique. Donc d'un côté, on a une armée ultra puissante qui est aidée par beaucoup de pays du monde, qui est l'armée israélienne, donc qui bombarde avec une aviation, qui a des drones, qui a tout un tas de moyens logistiques. Il bombarde la bande de Gaza, qui est un territoire densément peuplé. C'est moins grand que Montréal, Gaza, là. Il y a 2 millions d'habitants là-dessus qui sont coincés entre Israël, la mer et l'Égypte, qui essayent de survivre là. Ils sont dans un état de blocus perpétuel. Donc c'est comme une guerre à finir et on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est toujours la même chose. Ça revient régulièrement depuis la création de l'État d'Israël en 1948.
Quoi. OK. Il y a deux territoires palestiniens, là, si on veut parler de façon très générale. Gaza puis la Cisjordanie.
C'est ça.
La Cisjordanie, l'autorité politique qui est là, elle est modérée, donc c'est le Fatah. Puis dans le sud, le Hamas. Le Hamas, là, c'est un groupe qui est considéré comme terroriste et c'est un groupe armé qui veut éradiquer Israël.
Oui, même s'il a mis un peu dans sa charte au départ de création. Il a été créé dans les années 80, en 1987, par le cheikh Yassine, qui a été tué par Israël en 2004. Lui, c'est sûr qu'il refuse toute négociation, tous les accords qu'on a pu connaître dans le passé, Oslo, etc. Et tout. Alors que l'autorité palestinienne, donc, qui a le pouvoir sur la Cisjordanie, donc qui englobe une partie de Jérusalem-Est, Bethléem, etc., eux, c'est sûr qu'ils ont l'écoute des autorités internationales, en général de la communauté internationale. C'est considéré comme un interlocuteur.
Contrairement au Hamas, ils sont fréquentables internationalement.
Oui, le Hamas est classé terroriste, mais c'est bien compliqué parce que le Hamas, il a une branche politique puis une branche armée, qui sont eux qui lancent les missiles, les brigades Al-Qassam. Mais encore une fois, sur le sol de Gaza, c'est eux qui administrent ce territoire. Ils ont une vocation aussi politique, une vocation sociale, etc. Donc, c'est un peu comme le Hezbollah qui est présent au Liban, mouvement chiite libanais. Il est considéré comme terroriste par beaucoup de pays, y compris le Canada, mais il a des députés, puis il a des ministres au gouvernement. Donc c'est toujours difficile. La situation au Moyen-Orient, ça dépend toujours de quel côté on se place. Quoi.
Mais Fabrice, dans les territoires qui sont administrés par l'autorité palestinienne, qui n'est pas un groupe terroriste, là, le Fatah est fréquentable. Okay?
L'autorité, oui.
Bon, mais je veux dire, les Palestiniens sont quand même l'objet d'injustices. Sont expulsés de certains territoires, de certaines maisons. Il y a des villages coupés en deux. Je disais, c'est pas parce qu'ils sont plus fins qu'ils sont mieux traités.
Non, exactement. Puis je sais que tu es allé dans la région aussi. C'est flagrant quand on y va. C'est un territoire qui est morcelé. C'est-à-dire que la Cisjordanie, c'est comme un morceau de gruyère. Il y a des trous partout au milieu qui sont les colonies israéliennes. C'est-à-dire que même si à la rigueur, un jour, ça devenait un État palestinien reconnu internationalement, avec son passeport, puis tout ce qu'on peut imaginer, mais il n'est pas unique, il est morcelé par des colonies israéliennes. Gaza, lui, c'est un morceau unique, donc pas très grand, comme je disais tout à l'heure, qui est coincé. Il y a un embargo, les gens peuvent à peine rentrer, sortir. Moi, pour y aller, ça a été extrêmement difficile. C'est grillagé. La plupart des gens qui naissent à Gaza vont mourir à Gaza, quoi. C'est un pays que l'ONU disait en 2015 qu'il ne serait plus vivable au début des années 2020 parce que la situation sanitaire, etc., est vraiment déplorable à l'intérieur de cette enclave, quoi. Mais le Hamas, dès le début, lui, veut se positionner vraiment comme le chef de file de la lutte des Palestiniens contre Israël pour la cause palestinienne. Et il considère que l'autorité palestinienne, le Fatah, donc, est un peu mou, quoi. Donc les deux, d'ailleurs, ne s'entendent pas très bien, pas du tout, même. Donc c'est sûr que chacun a un rôle à jouer là-dedans. Le Hamas, c'est sûr que là, à travers ces actions-là, il veut se repositionner. Puis en face, il y a un Benjamin Netanyahou qui aussi compte sur ses ultras en Israël. Il n'arrive pas à reformer un gouvernement. C'est toujours la même chose, ces conflits-là aide d'une certaine façon des clans qui sont opposés, les ultras des clans opposés, quoi, à perdurer, quoi.
Fabrice, t'es allé là-bas, puis plus globalement, là, tu sais, au-delà des responsabilités des uns et des autres, qu'est-ce qui t'a donné le vertige dans cette situation-là sur le terrain en Israël-Palestine?
C'est que d'abord, quand on va là-bas, on a beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe, parce que plus on nous explique, plus c'est compliqué. Hein, comme je disais, ça fait des années, des décennies que ça dure. Puis effectivement, de chaque côté, il y a une population. Parmi la population, que ce soit palestinienne ou israélienne, il y a des gens modérés, il y a des gens progressistes qui en ont marre de cette guerre, de cet état de guerre perpétuelle, mais qui vivent avec cette menace, quoi. Moi, quand je suis allé, c'était en décembre, donc 2017. C'est un moment où le Donald Trump avait déclaré que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël, et ça finissait là. Donc, évidemment, ça avait provoqué des affrontements un peu partout. Mais des roquettes, des bombes, puis à chaque fois, les gens avaient peur, les gens en avaient assez de la guerre, mais en même temps, il y a toute une génération qui n'a connu que ça, quoi. Ça donne le vertige. C'est-à-dire qu'à Gaza, la population, finalement, ils n'ont connu que la guerre. Puis même si certains sont contre le Hamas, sont contre la guerre, ils rentrent dans cette spirale-là.
Mais Fabrice, il faut dire une affaire. Si t'es à Gaza, t'es un Palestinien, là, tu peux pas vraiment dire ce que tu veux sur le Hamas non plus, là.
Non, c'est un mouvement qui a une poigne de fer, qui a une maîtrise complète du territoire, mais en même temps, moi, il y a des gens qui me l'ont dit, mais c'est sûr que quand je suis allé, c'était la journée, c'était un pur hasard, c'était la journée des 30 ans du Hamas, ils avaient fait un énorme déploiement de force, ils faisaient parader leur troupes, les brigades Al-Qassam, il y avait des milliers de personnes habillées tous en vert, la couleur du Hamas, puis évidemment, tout le monde me disait, mais nous, là, on est prêt à mourir, quoi, on est prêt à mourir pour la cause palestinienne, et le matin même, j'avais été aux funérailles d'un militant du djihad islamique palestinien qui avait été tué par un tir de drone israélien. Et son père me disait qu'il était fier, puis qu'il était fier que son fils soit mort pour la cause. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais. C'est sûr que nous, c'est difficile de juger de l'extérieur. On ne peut pas comprendre ce genre de conflit si on ne va pas même un petit peu sur le terrain là-bas. Puis c'est extrêmement difficile de dire qui a tort, qui a raison. Mais c'est vrai que les Palestiniens sont dans une situation intenable et sans espoir, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice.
Salut, Patrick.
Fabrice de Pierrebourg, journaliste qui était à Gaza il y a 2 ans et demi. OK, on va parler maintenant avec Rouba Ghazal. C'est la députée de Mercier pour Québec solidaire. Madame Ghazal est d'origine palestinienne. Bonjour, Madame Ghazal.
Bonjour. Bonjour, monsieur.
Donc, jeudi dernier, vous avez piloté une motion là, qui a été adoptée à l'unanimité par les députés pour condamner, je cite, « l'augmentation des violences en Palestine et en Israël ». Écoutez, vous êtes à même de nous expliquer là, une partie du conflit. Il est extrêmement compliqué, mais ramenez ça à hauteur d'hommes et de femmes. Votre famille, qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qui a fait que votre famille a été relocalisée au Liban?
Oui, moi, ma famille, en 1948, évidemment, je n'étais pas née, mes parents non plus. Mes grands-parents des deux côtés vivaient depuis des générations en Palestine. Et en 1948, lors de la création de l'État d'Israël, le 15 mai 1948, donc ça fait 73 ans, il y a 2 jours, ils ont été expulsés de leur maison. Certains pensaient qu'un jour, ils allaient pouvoir revenir. Moi, ma famille est allée se réfugier au Liban, d'autres sont allés en Syrie, beaucoup d'autres en Jordanie et un peu ailleurs. Et aujourd'hui, 73 ans plus tard, on se retrouve avec des millions, près de 6 millions de réfugiés palestiniens à travers le monde. Et évidemment, il y a encore des Palestiniens qui vivent en Palestine. Juste pour vous dire à quel point cette histoire est proche de moi, Ma grand-mère avait 16 ans à l'époque. Elle vit ici, au Québec, depuis quelques années. Toute sa vie, elle a vécu après être réfugiée de la Palestine au Liban. Elle a vécu aussi la guerre du Liban. Elle est une survivante et aujourd'hui, à 89 ans, elle vit ici. Elle nous raconte cette histoire. Donc, c'est sûr que moi, quand je vois ce qui est en train de se passer, ces enfants qui meurent, le quart des morts à Gaza sont des enfants. On voit des images terribles. Si, ça me rend émotive. Si les gens voyaient les images, tout l'histoire de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je veux dire, c'est insupportable. Il n'y aurait plus personne assis à la maison. On serait tout dehors en train de manifester pour faire pression à nos chefs d'État. On est dans des pays démocratiques où on peut manifester de façon pacifique. C'est ce que j'ai fait samedi. Et pour faire pression, pour dire, oubliez la politique, oubliez la religion, oubliez la géopolitique, oubliez toutes ces questions. N'importe qui a un cœur à la bonne place s'indignerait et dirait, il faut que ça cesse. Pour tous les civils, toutes les personnes innocentes qui meurent dans cette guerre infinie.
OK. Ce qu'Israël dit, c'est, écoutez, on a le droit de se défendre, on a le droit de percevoir des roquettes sur la tête. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Israël a le droit de se défendre et les Palestiniens ont le droit de vivre. Leurs enfants aussi ont le droit de vivre. Quand Israël frappe, les conséquences sont immenses, incomparables. Et je ne suis pas en train de justifier ce que le Hamas fait. Parce que quand le Hamas frappe, il sait que les conséquences ne seront pas en Israël, principalement, mais au peuple palestinien. C'est comme une stratégie pour soulever le peuple et lui faire mal. Et moi, je condamne toutes les violences, peu importe d'où elles viennent. C'est une question d'humanité. Et je veux dire, on est capable de compter les roquettes de Hamas, mais on n'est pas capable de compter les missiles tellement c'est des dizaines de fois pire. Et je veux dire, si ça continue comme ça, on va se retrouver comme en 2014 où il y a eu énormément de morts, les blessés. C'est toute une génération aussi des enfants qui n'ont pas connu la guerre avant et qui vont être traumatisés à vie, les survivants. C'est une question d'humanité. Puis moi, j'ai envie qu'on la ramène à cette question-là. Puis que le Canada, M. Trudeau, est très populaire à l'international. Il aime ça, prendre des photos, tout ça. Bien, ça serait bien qu'il l'utilise et qu'il soit un peu plus ferme. Et il existe aussi, à Québec solidaire, on est pour une campagne internationale, BDS. C'est la campagne boycott, désinvestissement, sanctions, parce que l'État d'Israël se trouve dans une... C'est-à-dire notre silence, le silence à l'international où les remontrances timides et gênées, c'est de l'impunité pour Israël. Ils savent qu'ils peuvent frapper sans que ça fasse... sans que personne ne dise rien, ils peuvent continuer. Et ça, c'est inacceptable. Et on a le pouvoir de faire quelque chose, ne serait-ce qu'en arrêtant de leur envoyer des armes.
Écoutez, je pense que l'État d'Israël va s'approvisionner ailleurs. Mais écoutez, ouais. Moi, je suis allé il y a 11 ans en reportage dans ce coin du monde-là. On revient de là et c'est extrêmement confrontant. C'est complexe et aussi, il y a une disproportion des moyens pour se défendre et pour attaquer. Au-delà là, des lancers de roquettes puis des répliques d'Israël, etc., qu'est-ce que ça va prendre pour que ces gens-là, juifs, israéliens et arabes palestiniens, puissent vivre, je ne veux même pas dire dans la paix, mais dans un calme relatif, qu'est-ce que ça va prendre?
Écoutez, si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Comme vous le dites, c'est extrêmement compliqué. Et pour compliquer les choses, il y a aussi des Arabes israéliens. On voit aussi des articles là, dans la presse internationale, Radio-Canada, par exemple, dans un quartier qui est palestinien, qui est israélien, pardon, et il y a des Arabes qui vivent dans ce quartier-là. Et c'est des Arabes qui se considèrent comme Arabes israéliens. Mais ils ont moins de droits. Et il y a du racisme, il y a de la discrimination envers aussi les Arabes israéliens. Donc, juste pour ajouter une couche à la complexité, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a possibilité, comme on l'a fait pour le régime d'apartheid en Afrique du Sud, parce qu'il faut dire aussi, faut nommer les choses telles qu'elles sont. Un jour, on va le reconnaître qu'Israël, ce qu'il fait, c'est un régime d'apartheid.
C'est la thèse de l'ancien président américain Jimmy Carter, d'ailleurs. Qui a présidé aux accords de paix entre l'Égypte et Israël. Ce n'est pas un ennemi d'Israël.
Oui, exactement. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser du pouvoir à l'international, nous avons pour dire non, Israël. On comprend que vous avez le droit de vous défendre et on va tout le temps nos assureurs internationaux, là, partout à ce droit-là, puis que votre population et vos civils, qui sont aussi innocents, vivent en paix.
Est-ce que...
Mais il faut leur faire un petit peu mal pour qu'ils arrêtent, parce qu'en ce moment, ils ont l'impression qu'ils peuvent continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Est-ce que le fait que le Hamas souhaite la destruction d'Israël, c'est un obstacle?
Ce qu'on a besoin, là, oui, c'est aussi un obstacle. Les Palestiniens ne sont pas bien servis par leurs élus.
Leur leadership politique.
Ans. Leur leadership, exact. Ils ne sont pas bien servis par ces gens-là. Puis eux aussi ont le droit de vivre dans la démocratie. Donc, il faudrait qu'à l'intérieur, comme ils ne sont pas capables de s'entendre qu'il y a des innocentes personnes qui meurent, on ne peut pas rester silencieux. La campagne, moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement du Canada ne l'appuie pas, cette campagne de boycott des investissements de sanctions. Il peut juste l'appuyer. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, on peut dire que le Canada n'a pas tant de force. Mais si chaque pays commençait à appliquer ces sanctions-là, au moins, il y a une action, il y a quelque chose qui est fait et un jour, peut-être qu'il va y avoir une solution. Parce que sinon, il n'y a pas 36 000 solutions. L'inaction, ben, c'est de continuer à laisser des gens mourir. Et c'est pas parce que ça dure depuis très, très longtemps que c'est normal. Parce que des fois, on a cette impression-là. Mon Dieu, ça fait 73 ans. Puis, pour vrai, ça pourrait durer encore 100 ans. Mais, humainement, c'est inacceptable. On peut pas accepter ça. Et moi, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que j'ai déposé cette motion à l'Assemblée nationale. Je voulais que, à l'Assemblée nationale, les 125 élus, on exprime la solidarité que le peuple québécois aussi a envers le peuple palestinien. C'est ce que j'ai ressenti samedi lors de la manifestation.
Merci, Mme Gazal.
Merci à vous.